À voix nue, cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Yolande Moreau. Ce soir, trouver sa juste voix.
Bonsoir Yolande Moreau.
Bonsoir.
Hier soir, nous avions fini notre conversation sur votre premier spectacle, écrit, mis en scène et interprété par vous-même, « Sale affaire du sexe et du crime », un spectacle qui vous a révélé au grand public au début des années 80 et vous a ouvert aussi les portes du cinéma. Agnès Varda voit votre spectacle en 1984, vous le jouez au Off d'Avignon. Elle vous voit distribuer les tracts et va le voir dans la foulée. Elle vous engage sur un court-métrage sur lequel elle est en train de travailler, cette pièce cuisine salle de bain, où vous jouez une cuisine qui crache dans l'omelette de son patron. S'en suivra un autre rôle de bonne qui rêve au grand amour dans son long métrage Sans toi ni loi en 1985. Quelle a été votre première impression sur un plateau de cinéma, Yolande Moreau? Est-ce que vous vous êtes dit « Ah, enfin, j'y suis » ou alors « Mais qu'est-ce que je fous là ?»
Oh, pas du tout, parce que je ne m'attendais pas à jouer au cinéma, jamais. Je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment, la rencontre avec Agnès Varda, elle avait vu un bout de spectacle de Sale affaire à l'émission de Jiquel, je crois. Puis j'étais par hasard, j'étais là à Avignon. Elle dit, mais viens demain. Et moi, le lendemain, je suis ravie de faire ça. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et j'y vais, mais à midi. La première chose que j'apprends, c'est qu'il faut être à l'heure au cinéma. C'est crétin. Mais Sans toi ni loi, c'était aussi un des premiers films que j'ai fait. Et là, j'ai appris qu'il fallait apprendre son texte. C'est crétin, mais toujours, j'ai parti aussi de justement des cours chez Philippe Gaulier où surtout il fallait pas avoir d'idées pour pouvoir avoir la fraîcheur d'inventer. Je voulais ça au début. Au cinéma, j'adore d'ailleurs encore quand on peut improviser. J'ai fait ça récemment avec Stéphane Brisé, j'adore.
Dans Une vie.
Oui.
L'adaptation de l'œuvre de Maupassant.
Oui. On reçoit une page avec ce qu'on devrait pouvoir dire dans les conversations. Ça force à t'obliger à écouter l'autre. Et
Oui, ça s'entend, c'est très hésitant dans ce film d'ailleurs. La diction est très naturelle comme dans la vie. C'est pas du tout théâtral. Comme
moi j'aime bien ça, on est obligé de s'écouter pour... On doit balancer un truc, mais il peut y avoir les silences, les hésitations, le moment où on le dit. Enfin,
Et donc cette recherche de la spontanéité, du défaut non gommé, ça vous a mené vers Jérôme Deschamps et Macha Makeyev. Vous avez écrit à Jérôme Deschamps pour lui demander un stage. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette envie que vous avez eue d'aller vers ce couple de metteurs en scène?
Au départ, c'est parti d'un article de Libération, je crois. Et aussi parce que pendant Sans toi ni loi, j'avais rencontré son neveu, Jacques Deschamps, qui m'avait dit, il faut absolument que tu rencontres Jérôme, tu vas adorer ce qu'il fait, etc. Donc j'avais entendu ça, et j'avais envie de faire ce stage avec Jérôme et Macha pour voir comment ils faisaient pour mettre ensemble des gens. Et j'avais pas, après, il m'a proposé de travailler sur Lapin Chasseur. J'étais très contente, mais mes enfants étaient adolescents. Je me suis un peu demandé comment j'allais faire, mais je l'ai fait.
Pourquoi?
Ben, ils étaient adolescents. Je devais tout à coup être longtemps à Paris. La première fois, ça va, et puis on se dit, tiens, puis il y a un autre spectacle qui est en braille. Je suis quand même restée 12 ans.
Vous êtes restée
12 avec ans. Des interruptions, puisqu'on jouait le spectacle, on allait en tournée. Je rentrais à Bruxelles, mais...
Et alors, comment ça s'est passé, cette première rencontre avec Jérôme Deschamps et Macha Makeyev? Comment est-ce que ils se sont dit que vous alliez les suivre dans l'aventure? Comment est-ce que vous êtes dit, ça y est, la troupe que je cherchais, elle est peut-être ici?
Il saura mieux répondre que moi, Macha aussi. Parce qu'elle me disait, je pense qu'il aimait bien ma manière de marcher. Il disait que je marchais comme une louve, qu'il y a des petits, ou je sais pas, enfin, l'image qui se faisait de moi, je sais pas.
Il a dit plusieurs fois dans des interviews que quand il vous voyait traverser la Seine, il se disait que vous pouviez avoir marché 40 kilomètres sous la pluie, avoir vécu 1000 malheurs.
Voilà, ça c'est l'image qui se raconte. Je marche pas autant. Mais, toujours dit, cette forme de théâtre m'intéressait. je retrouvais ce que j'avais envie, que j'expliquais au début de plaisir des mots, de la peinture, des choses racontées d'une manière très différente. Parce que dans le spectacle de Jérôme Deschamps aussi, ça, les choses interviennent de plusieurs manières. Il y a aussi, je me rappelle Jean-Marc Billour qui chantait avec sa voix tout à fait aiguë et qui nous emmène toujours vers l'âme et avec des choses. Il mélange des pistes avec François Morel qui est très bavard ou Olivier Saladin duquel. Au début, j'avais du mal à trouver ma place. Je savais pas trop comment intervenir. Oh, de nouveau, timide et...
Et finalement, vous avez trouvé cette arme, si on peut dire, en tout cas cette parade du jeu avec le silence. Quand vous arrivez sur scène pour le spectacle Lapin Chasseur, c'est ce silence-là, il est très éloquent. Vous traversez la scène en dansant un peu maladroitement.
Oui, pour moi, il était douloureux. Hein. Il était douloureux parce que je pensais que je savais pas faire.
Alors que vous disiez mille choses. Quand on vous voit sur scène, on vous comprend.
La parole est venue après, mais j'avais pas cette facilité qu'avaient certains de mes collègues, comme François Morel, Duquesne, Saladin, Lorella Cravotta, tout ça, à trouver des mots. Je me rappelle, on était le long d'un mur, notamment à Chaillot. La fabrication, on est tous le long d'un mur, et la scène est censée être juste de l'autre côté, en face. On était à peu près 14. Jérôme et Macha, ils étaient au milieu. Et il y avait d'un côté ceux qui étaient assez, qui étaient très à l'aise, qui avaient la réplique facile et joyeuse d'ailleurs. Et puis des gens pour qui c'était plus douloureux, entre autres moi, d'autres gens aussi. Il y avait Suzanne, la chanteuse, il y avait les vieux. Et on se retrouvait avec ceux qui avaient plus difficile d'un côté et ceux plus faciles de l'autre côté. Et cette fabrication-là, je me rappelle avoir eu... Oui, difficile quand même. Et avec, que je partageais avec d'autres gens, hein, pour qui c'était difficile aussi. Et je m'en suis exprimée plus tard avec Jérôme Deschamps. Et oui, je dis, mais enfin, je fais rien, je tire seulement une bassine. Et quand tu tires une bassine, ça raconte une vie. Je me dis d'accord, parce qu'en fait c'est bien ce que j'ai envie de voir moi aussi quand je vais si je vais au théâtre.
Mais à l'époque ça vous instillait un doute de
oui sur ma capacité bien sûr.
Vous vous demandiez si vous étiez faite pour ce métier, vous alliez jusqu'à penser cela.
Et puis ma capacité à inventer à toujours même on le voit même plus tard après dans les des chiens moi je parle pas beaucoup, mais c'est comme une table. Hein, si on se met à une dizaine autour d'une table, il y en a qui vont tenir le crachoir, et puis d'autres pas, il y en a qui vont... Voilà. C'est comme ça dans la vie.
J'aimerais savoir concrètement comment est-ce que ça se fabriquait un épisode des Deschiens, parce qu'il faut savoir pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont jamais vu un sketch des Deschiens que vous étiez face caméra à deux ou trois, vous étiez complètement statique, assis, vous étiez, on vous filmait au niveau de la poitrine et voilà. Et donc comment est-ce que, en termes de mise en scène quand même et d'écriture, comment est-ce que ça se concevait un épisode des Deschiens?
Il y avait souvent une idée, quelque chose, une idée de base amenée par Jérôme et Macha. Et là-dessus, on improvisait, on lançait la caméra. Il y a une durée, genre 2 minutes et demie, 3 minutes. Et donc, très souvent, le jeu consistait à... Parfois, on devait rock, on avait trouvé des choses, mais le jeu quand même consistait à essayer de déstabiliser l'autre. Ou en tout cas de le surprendre ou de faire rire. Et quand on arrivait proche des 3 minutes, comme un chef d'orchestre, Jérôme nous disait de clôturer. Alors parfois le sujet proposé en amenait un tout à fait différent. En fait, on allait ailleurs.
Vous avez le souvenir d'un épisode des Deschiens qui a complètement bifurqué?
Oh, il y en a eu plein qui ont bifurqué. François Morel, quand même, très... Il a je sais pas combien d'idées à la minute, quoi. Donc il rebondit et puis il est surpris. Et puis s'il est surpris, il éclate de rire. Il faut recommencer la prise. Et alors il se laisse pas surprendre deux fois.
Effectivement, pour l'aider chien, donc vous interprétez à ce personnage mythique de Yolande Morel, Madame Morel, la femme du fromager interprétée par François Morel. C'était une femme à l'image qui apparaissait un peu affaissée, un peu renfrognée, avec des cheveux roux ébouriffés, qui était habillée avec des blouses en nylon très colorées et qui avait l'air un peu paumée et qui s'énervait parce que son mari s'énervait, qui avait l'air de pas comprendre grand-chose, mais qui disait beaucoup avec ses silences. Comment est-ce que vous l'avez construit, ce personnage, avec la troupe, avec Jérôme Deschamps et Macha Makeyev? Surtout que c'était un personnage de télévision, cette fois.
Si on parle des chiens, justement, je vous dis, il y en a qui sont plus habiles que d'autres à parler. Donc, dans les 3 minutes, pour placer un mot, parfois, c'est difficile. Mais on apprend que c'est pas grave, qu'on peut exister différemment, justement. On le voit très bien avec l'image, qu'on peut exister différemment.
Vous avez appris à jouer avec votre silence.
Oui, en même temps, quand j'ai ça, je suis de nouveau gênée, parce que... oui, en tout cas, je suis pas... François Morel est extrêmement inventif, il a une... Je sais pas combien d'idées à la seconde, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Et même dans les... Mais j'ai pu amener autre chose. Je ne me renie pas pour autant. Même dans les spectacles, je fais plutôt la paumée de service. Je fais la paumée de service et... Ça m'a plu. Maintenant, j'adore jouer autre chose. J'adore qu'on me propose une bourgeoise au théâtre. Enfin, j'adore sortir de ça. On fait ce métier justement pour explorer pas mal de choses, mais quand même, avec des choses, j'ai beaucoup fait la paume de service.
Justement, j'allais y venir, Yolande Moreau, pendant et après Les Des Chiens, on vous a beaucoup proposé des rôles de femmes du peuple, des petits rôles souvent, pas toujours, mais souvent, de tenancières de bar, de concierges, de femmes de ménage, et comme vous le dites aussi, de femmes un peu paumées. Est-ce que ça a pu vous agacer, ça, qu'on vous associe souvent à Madame Morel, à la Des Chiens que vous étiez? Est-ce que vous vous disiez, mais moi j'ai autre chose à donner, pourquoi est-ce qu'on propose ça?
Je ne me suis jamais sentie prisonnière de ça. C'est-à-dire, au début, peut-être, il y avait même des réalisateurs que ça rebutait, parce que ça avait peur qu'on pense aux Des Chiens. Ils avaient peur de ça, parce que dès que tu passes à la télé, c'est un peu imprimé. Moi, je ne me suis pas sentie prisonnière de ça. Et par exemple, Séraphine, c'est venu plus tard, c'est venu après quand l'armée remonte aussi. Mais je me rappelle, Martin Provost avait quand même un peu peur, parfois, de ce qui pouvait déclencher le rire. Et moi qui suis profondément tragicomique, j'adore ça. Moi, j'adore ce qui fait sourire sans pour autant forcer. Je dis attention, c'est drôle ici, j'ai horreur de ça. Mais je pense que ça a pu heurter certains réalisateurs, mais en tout cas pas moi. Et je pense qu'au début où j'étais au cinéma, j'étais tellement contente de faire du cinéma. D'ailleurs, le premier film avec Agnès Varda, c'est pas du tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a pas arrêtée. Et puis, très vite, mais maintenant, je trouve que j'ai un luxe de proposition. Donc, je fais vraiment les choses qui m'intéressent, avec les gens qui m'intéressent. En vieillissant, c'est un gros luxe. Hein.
Mais parce que depuis Les Déchets, en plus, vous avez élargi la palette de personnages que vous interprétez aussi.
Oui, et puis, en vieillissant, il y a le luxe de pouvoir choisir.
Dans les films que vous avez réalisés, on retrouve certains personnages. Philippe Duquesne. On retrouve des personnages comme ça. Est-ce que vous avez eu du mal à les lâcher, ces personnages des Deschiens,
cet univers-là? Je ne les lâche pas. Déjà, effectivement, j'ai des amis pour la vie là-dedans. Il y a des gens avec qui je me sens vraiment très très proche. Duquesne, Lochet, Morel sont des gens avec qui je suis restée très très liée. Même si on se voit pas tout le temps, mais...
Est-ce qu'il y a des conseils, des remarques de Jérôme Deschamps, de Macha Makeyev, dont vous vous souvenez encore aujourd'hui, avant d'entrer en scène ou avant une action sur un plateau de cinéma?
Pour moi, ce qui me reste beaucoup pour eux, c'est leur confiance qu'ils avaient tous les deux à fabriquer des choses avec presque rien. Et ça, ça reste, par exemple, pour l'élaboration, pour écrire un scénario, de faire confiance à des petites choses, soi-disant pas importantes, et à les mettre dans le spectacle. Je trouve faire cette confiance-là, pour après, il y a une construction qui est très pensée et tout ça, mais de faire confiance aux petits riens, à des riens.
On a parlé de Lapin Chasseur, mais il y a eu aussi des spectacles comme C'est magnifique, Les pieds dans l'eau. Il y en a eu d'autres avec Jérôme Deschamps et Macha Makeyev. Comment est-ce que vous travaillez à chaque fois dans les répétitions? Est-ce que c'était beaucoup basé sur l'improvisation? Est-ce que vous apportiez des propositions? Comment ça se passait? Comment se construisaient les personnages?
Alors, les personnages, on avait un peu des personnages. Comme je dis, moi j'ai beaucoup fait La fille un peu paumée. C'est pour ça aussi, après, on a un peu envie d'autre chose, à un moment donné. Parce que ça fonctionne bien, et il y a une efficacité qui peut, sur la longueur, tout à coup, on se dit, attention, on va un peu bousculer les choses. Mais, comme je vous dis, les choses, des fois, se passaient avec trois fois rien. Il y avait Philippe Rouèche, qui est décédé il y a deux semaines, qui faisait des musiques à l'accordéon. Et c'est très amusant de voir au début proposer des musiques. Et très souvent, tout l'ensemble du groupe était d'accord pour dire ça oui, ça oui, ça non. Et pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que il y avait comme quelque chose qui nous dépasse, qui est commun. Et alors les spectacles se montent avec... pour ces magnifiques, moi qui vous ai parlé de ma timidité... J'aime bien raconter ça parce que je l'ai toujours beaucoup retenu. Une des premières fois où on se réunit pour répéter, Jérôme Deschamps, il prend une chaise, il en prend deux, il les met au niveau comme ça du plateau, et je dois m'asseoir à côté de lui, et il dit, viens t'asseoir ici, je vais rester un peu avec toi parce qu'il va falloir t'habituer. C'est vrai, c'est très très généreux de sa part et très joli. J'ai toujours retenu.
Parce qu'il avait perçu votre solitude.
Oui, il me connaissait quand même, il le savait. Et du coup, c'est dans ce spectacle-là que moi j'ai commencé à parler. Sinon, dans les autres spectacles, je ne parlais pas.
De quoi vous aviez peur à l'idée de parler sur scène?
Que ma voix sonne faux, qu'elle parte pas bien, parce que volontaire. Et donc, la première fois que j'ai parlé, j'avais peur que ma voix sonne volontaire, comme une volonté de... Et en même temps, si on ne le fait pas, moins on le fait, moins on ose le faire.
Mais pourtant, vous n'étiez pas du tout une débutante à cette époque-là.
Oui, mais il s'agissait d'impro et je sais pas.
Et depuis, alors, vous aimez ça? Pour composer vos rôles, vous préférez plutôt quand ça part d'une injonction à improviser, d'une instruction à improviser?
J'ai beaucoup aimé ça, mais c'est assez rare. Non, j'aime bien, j'aime aussi... Les spectacles écrits, même des fois pas tout le temps écrits comme on souhaiterait, se conformer à ce qu'a envie le réalisateur est un exercice que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est pas écrit vraiment comme on le voudrait, et ça nous oblige à trouver des autres voies. J'aime bien ça. Maintenant. L'improvisation, ces 12 années comme ça avec Jérôme Deschamps et Macha Makeyev, m'aident des fois à l'écriture, par exemple. Quand je dis faire confiance à des petits riens, parce que l'écriture de cinéma, c'est pas une écriture de littéraire, tout ce que je disais, justement, c'est faire confiance pour raconter une scène, elle peut être racontée d'une manière qui n'est pas littéraire. Et ça, ces années d'impro m'aident à faire ça.
C'est vrai que Madame Morel, elle pouvait sembler au premier abord en colère et hostile. Et en fait, au bout de 5 minutes de sketch, on pouvait surtout voir de la tristesse et un peu de désespoir dans ses yeux.
Ah ben, de toute façon, le spectacle Deschamps Makeyev, c'est des spectacles profondément tragiques. Profondément tragiques. Où on rit. J'adore ça. Moi, j'adore. Et il y a toujours un moment... par rapport aux déchets, je trouvais, moi j'aimais, je crois que je préférais encore le spectacle. Il y avait toujours des moments où il y a quelque chose qui va vers le ciel, toujours, ou qui nous transporte, ou qui raconte les gens. Alors,
c'est un peu ce que vous essayez de faire dans vos films. Il y a une attention très forte portée au visage, au regard, au silence. Vos personnages sont silencieux, mais vous les filmez comme si vous vouliez resserrer le plan sur leurs yeux, presque.
Je sais pas. Je ne sais pas. Parfois, c'est compliqué de savoir pourquoi on veut raconter une histoire. C'est compliqué de trouver les raisons. Alors le dernier, là, ce que je suis en train d'écrire là, c'est, je voulais faire un truc sur des faussaires. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens trichent avec, ils s'inventent parfois des histoires, comment trichent pour rêver leur vie. Et dans ce sens-là, je l'avais pas vu tout de suite. Mais ça rejoint très fort quand la mer monte, en fait. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite.
Deschamps-Makeïev, toute cette époque que vous avez passée dans la troupe avec François Morel, Benoît Duquesne, Olivier Saladin, Bruno Lochet, Achmed Khelif, Lorella Cravotta et d'autres, est-ce que ça vous a aussi donné des clés pour vous-même diriger une troupe? Parce que sur un plateau de cinéma, on dirige une troupe.
Alors, comme je vous dis, ça donne confiance à fabriquer de manière presque artisanale. Et je trouve que le film, c'est comme ça aussi. C'est artisanal, ça se fait avec du coup avec un groupe aussi. Il y a d'autres corps de métier, mais j'ai toujours très peur. De nouveau, je me dis, je me sens parfois illégitime, mais un film, c'est quand même l'affaire de plein de gens. C'est ma fille, elle est script, elle m'aide vachement. Il y a les chefs opérateurs, la costumière, tous ces gens comptent. Mon mari est machiniste. Tout le monde concourt à faire. C'est un boulot d'équipe. Et j'aime beaucoup ça. L'écriture, elle est solitaire. Mais à partir du moment, même là, des fois, je partage ça avec la productrice avec qui je travaille, chaque fois, lui faire part des musiques qui se créent. C'est un domaine où la part de création est très, très grande. C'est ça qui me plaît.
Votre entourage qui vous connaît bien, Yolande Moreau, comment est-ce qu'il a réagi à la découverte de tous ces personnages, de toute cette palette de personnages que vous offriez sur scène?
Oh, l'entourage, je sais pas. Je me rappelle qu'au début, je ne faisais pas jouer devant mon mari, mais parce qu'il avait peur. Peur pour moi.
Pourquoi?
Parce que le spectacle seul, avec mes silences, ça c'est casse-gueule, en fait.
Finalement, vous avez pris goût à l'esprit de troupe.
Ah oui. Ah oui, j'ai tourné longtemps seule. Ça m'arrangeait. À l'époque, je travaillais pas trop non plus. Je pouvais être à la maison. Je travaillais moins qu'une femme qui travaille au bureau 8 heures par jour. Je parcourais la France avec... J'avais une vieille déesse. Parfois, je dormais dedans. Parfois, quand je prenais par bison futé. Et c'est un métier qui me plaisait, mais je voulais pas être seule sur scène. Franchement, c'est plus gai d'être à plusieurs.
Malgré cette expérience heureuse de sale affaire du sexe et du crime.
Oui. Oui.
Pour en revenir au personnage que vous interprétiez dans cette troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïev, est-ce qu'il y a des personnages de votre enfance ou de votre adolescence qui vous sont revenus en tête quand vous avez dû les composer, ces rôles, les travailler? Est-ce qu'il y a eu des sources d'inspiration qui sont remontées de l'enfance?
Il y a eu des choses, peut-être pas spécialement de l'enfance, mais sinon, de toute façon, on travaille sans arrêt avec ce qu'on est, quelque part... dans n'importe quel rôle de comédien, je trouve qu'il y a une part de soi et il y a une part d'imagination de ce qu'est l'autre, de ce qu'on a pu voir, ou d'imagination. Par exemple, pour C'est magnifique. Mais c'est un souvenir de bien plus tard. J'avais entendu ce souvenir radiophonique d'une émission de Daniel Mermet et qui interviewait la maman du dernier condamné à mort, qui venait du Nord. Et qui comprenait pas comment ça, qui avait été prévenu par la radio. Son fils avait été décapité. Et enfin, elle avait une voix un peu traînante. Et c'est cette voix-là, d'ailleurs. La première fois que j'ai parlé, c'est cette voix-là que j'ai repris. Il y avait aussi, pour ces magnifiques, un personnage... je me faisais comme une histoire d'un personnage, d'une fille, de nouveau, je sais pas, qui pousse à la campagne, qui pousse comme une plante, que tout le monde peut sauter, qui vit un peu comme une plante, et qui trouve tout normal. Et le personnage, c'est magnifique, il est, je me rappelle, il est nourri de ça. Maintenant, je pense, ça, l'affaire, c'est nourri d'autre chose, sans doute de moi aussi. Donc, alors, la mer monte, ça parle de choses que j'ai vécues. De tournées, il y a beaucoup de comédiens qui me disent, qui se sont reconnus dans les tournées théâtrales, de la solitude qu'il peut y avoir. Et en même temps, ça devient universel, moi, c'est ça qui m'importe. Je trouve les films de Valéria Bruni aussi, elle parle de ces histoires très personnelles et ça devient universel. Et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, je trouve les spectacles de Jérôme Deschamps parlaient de ça, d'une violence de la vie. Il y avait des gens qui nous accusaient des fois de se moquer. J'ai toujours trouvé, pour moi, il n'était pas question de moquerie. Mais il y en a peut-être qui l'ont ressenti comme ça. Mais on parlait d'une violence de la vie, certainement. Dans ce sens-là, complètement tragique.
Pour vous, c'est important de parler dans votre cinéma et dans le théâtre que vous avez fait, que vous faites, des gens dont on ne parle pas?
Je ne sais pas dont on ne parle pas, mais en tout cas d'une société dans laquelle on vit, oui. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi évoquer Valéria Bruni, qui vient tout à fait d'un autre milieu que le mien. Et la première fois, je me rappelle, je me dis, tiens, qui ça va intéresser, cette histoire de chameau d'une petite fille riche? Je te vois le film, je dis, formidable, c'est formidable. Ce qu'elle fait, les soucis des uns et des autres, il y a de la place pour tout le monde, pour dire des choses. Tous les gens m'intéressent. C'est quand même une femme, une bourgeoise par rapport à moi, et puis j'adore ce qu'elle raconte. Et je trouve tout ça aussi digne d'intérêt que de parler des gens en disant qu'ils sont dans l'ombre.
Eh bien, nous continuerons à parler de cinéma demain, notamment avec votre premier long métrage. Merci Yolande Moreau.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Yolande Moreau. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi. Prise de son, François Rivalan, attaché de production, Daphné Abgral, coordination, Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoutez ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.